commençons donc notre séance de travail pour cette journée que vous avez si brillamment conçue, pensée et présentée à l'instant avec Céline Surprenant. Et c'est un grand plaisir d'être ici parce qu'à vrai dire, c'est presque comme si c'était une journée d'études de science-fiction. C'est aussi, ça va être aussi l'histoire des possibles non advenus, de ce qu'aurait pu devenir l'histoire de l'art si telle ou telle voie n'avait pas été prise. En fait, donc, une histoire des possibles, ce qu'on appelle en historiographie une histoire contrefactuelle, va aussi avoir lieu, je crois, en particulier avec l'intervention de notre premier intervenant, François-René Martin, pour cette demi-journée donc, qui s'intéresse particulièrement à la cartographie des lieux d'enseignement et aux décisions institutionnelles prises pour aller dans telle ou telle autre direction. François-René Martin est professeur et bien connu de nous tous, premièrement. Mais je le présente néanmoins pour ceux qui ne le connaîtraient pas. François-René Martin est professeur d'histoire générale de l'art à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, c'est-à-dire qu'il fait partie de cette branche de l'histoire de l'art extrêmement importante dans toute l'Europe qui est enseignée pour les artistes et qui, du point de vue de certains, a une histoire de l'art mieux, parce que plus pratique, plus proche des réalités, en tout cas dans les débats historiographiques du XIXe siècle. Il a étudié la science politique et l'histoire de l'art à Strasbourg. Il a été formé, ou il s'est formé, auprès de Roland Recht, que je revois pour ma part avec très grand plaisir, qui a dirigé sa thèse sur Grunewald, le peintre Grunewald et ses critiques. François-René Martin a toujours été de ce fait à cheval, notamment entre la France et l'Allemagne, pour ce qui concerne l'historiographie de ces questions. Ancien postionnaire à l'Institut national d'histoire de l'art, il a été directeur de recherche invité au Centre allemand d'histoire de l'art à Paris et plus récemment chercheur invité au Getty à Los Angeles. Il coordonne la recherche à l'École du Louvre depuis l'automne 2018 et ses recherches ont porté principalement jusqu'à présent sur l'historiographie des peintres dits primitifs et sur l'histoire des méthodes en histoire de l'art, c'est-à-dire exactement sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui et ce matin en particulier. Il est l'auteur d'une monographie sur Grunewald parue en 2012 aux éditions Hazan, traduite en allemand et en italien. Il est lu partout en Europe, François-René, sur ces questions. Il est une réelle référence, notamment pour nos étudiants, pour les générations qui arrivent dans ces sujets. Et il doit prochainement publier le manuscrit de sa thèse d'habilitation qui portait sur le jeune Ingres et Raphaël, c'est-à-dire sur les années 1800-1810. François-René, the floor is yours. Tu
merci, peux y aller. Merci, chère Bénédicte. Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée, le professeur Antoine Compagnon et Jessica Desclos. Je suis par ailleurs heureux de retrouver ici des amis, parmi lesquels mon directeur de thèse, Roland Recht, que je suis venu écouter de nombreuses fois ici même. C'est donc à la fois un plaisir et quelque chose d'un peu intimidant que de venir parler aujourd'hui. Lorsqu'il me fut proposé de venir contribuer à cette journée et de donner par avance un titre, j'ai proposé de traiter de l'École des Beaux-Arts du Collège de France autour de 1900. La guerre des chaires, avais-je osé avancer comme titre. La communication que je vous propose élargira quelque peu la période en partant de la création de la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art aux Beaux-Arts en 1864. Mais la question des luttes dans le vis-à-vis des deux institutions, des luttes aussi bien personnelles que disciplinaires ou même idéologiques, restera bien présente. 3 ans après avoir été élu à la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art, rue Bonaparte, à l'École des Beaux-Arts, je vous montre ici une vue récente de la cour d'honneur de l'École des Beaux-Arts, rue Bonaparte, une école donc que Taine fréquenta dans les années 1860. Taine donc publia dans le journal des débats un récit qui avait valeur de parabole, livrant l'image qu'il se faisait de l'institution, son utilité dans la formation des artistes et incidemment le rôle que pouvait y jouer un professeur chargé d'y enseigner une matière théorique. Le texte est connu et il figure en annexe du petit volume « Relire Taine » publié par le musée du Louvre et l'Ensbach. Taine faisait donc visiter les lieux à un ami italien, le comte N., vieil italien, amateur de peintures anciennes, qui professait un grand mépris pour toutes les productions artistiques postérieures à 1600. Le titulaire de la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art dans l'école lui montrait la cour avec les... Alors ici, vous avez un portrait de Taine. Et ici, une vue de l'entrée de l'école vers 1900 avec les bustes de Puget et de Nicolas Poussin. Et cette longue allée qui conduit au Palais des Études avec, on le voit, c'est un monument qui a été démantelé en 1968, l'Arc de Gaillon. Donc Taine se promène avec son ami italien dans la cour. Il lui montre les fragments de la chapelle d'Annet, le portail de Gaillon, la cour du Mûrier, où l'on pouvait voir une copie de la Galatée de Raphaël. Il lui montre l'escalier menant à la salle Melpomène, le palais des études, avec les copies des loges du Vatican. Les copies des chefs-d'œuvre, moulages, peintures, médailles, les fragments d'architecture les plus précieux étaient ainsi entassés dans ce lieu conçu comme un musée-école destiné à donner à ses élèves les modèles les plus achevés, fondement de leur apprentissage. Ici, on voit d'ailleurs la disposition des fragments de l'Antiquité, les moulages, cette grande colonnade qui ont été démantelées en 1968 et qui étaient présentes donc dans la cour du palais des études. C'est en tout cas ces fragments que Taine présente à son ami, lequel lui répond, après que Taine ait fait cette visite, « Il pleut beaucoup à Paris, n'est-ce pas ? Et les cheminées fument. » Il voulait ainsi signifier à son hôte qu'il comprit bien que la France ne serait jamais l'Italie. Taine d'écrire, « Le soleil nous manque et le marbre est trop cher. Notre pierre n'a pas d'éclat. L'enduit dont on la couvre est un plaquage de café. Les murs, même balayés et grattés, semblent toujours pleurer. Des poussières noires, de vagues traînées verdâtres y collent leurs lèpres blafardes. Nos parterres sont des préaux, l'herbe suinte et pourrie sur place. Nos cheminées, nos brumes, notre lumière pâle ne s'accommodent ni des grandes formes simples, ni des murs nus, ni des couleurs graves et fortes. Mon Italien avait raison de songer aux colonnes orangées, aux dalles roussies, aux lustres des marbres qui, dans son pays, autour d'une citerne ou d'un carré de lavande, font un promenoir imprégné jusque dans sa pierre de toute la magnificence du ciel. » Fin de citation. Les chefs-d'œuvre copiés, rassemblés en un lieu qui voisine avec le musée du Louvre et celui du Luxembourg, sont donc peu de choses. Nous ne pouvons changer notre climat, reconnaît alors Taine, qui tente mollement de justifier l'utilité et la force de l'école. Une bibliothèque spéciale de dessin et de livres sur les arts, 8 cours d'histoire et de sciences générales, 14 maîtres, architectes, peintres, sculpteurs, graveurs, choisis parmi les plus renommés, devant qui, le soir, les jeunes gens dessinent, modèlent ou tirent leurs lignes. Mais ces mêmes moyens ne peuvent suffire à produire de bons artistes. Le climat est la condition première, selon Taine, le climat, c'est-à-dire le milieu en réalité. Tout ce que dans ses cours aux Beaux-Arts Taine cherchera à systématiser, tout au moins poser, se résume dans le chapitre 2 de la philosophie de l'art, je cite, « L'œuvre d'art est déterminée par un ensemble qui est l'état général de l'esprit et des mœurs environnantes. » C'est donc la race, le milieu et le moment, ou encore la température physique et la température morale des peuples et des contrées qui produisent non les génies, mais une école dans sa spécificité, faite d'un certain nombre d'hommes aux talents inégalement répartis. Mais, poursuit Taine, je cite, « il y a une direction régnante, qui est celle du siècle. Les talents qui voudraient pousser dans un autre sens trouvent l'issue fermée. La pression de l'esprit public et des mœurs environnantes les comprime ou les dévie en leur imposant une floraison déterminée. » Fin de citation. Cette température morale, donc, se confond largement avec le public, dont Taine parle également dans son article du journal des débats. « Le public, écrit-il, est une seconde école plus forte que l'autre. » Alors on peut le formuler ainsi, quel que soit le talent d'un artiste, sa volonté, il se soumettra d'autant plus facilement au goût du public qu'il en est imprégné, qu'il s'y soumet sans s'en rendre compte. Or, en cette fin du XIXe siècle, le public et le goût français sont, selon Taine, altérés par toutes sortes de facteurs qu'il livre dans un pêle-mêle étrange. Les rues trop pleines, les visages trop affairés, les expositions qui relèvent à la fois de la féerie et du cirque, les critiques trop mélancoliques, les riches étrangers, brésiliens, américains ou moldaves, c'est ce qu'il cite, hein, Taine, qui viennent à Paris pour jouir de la vie, la multiplication des salons mondains, jadis il y avait 100 salons, il y en a aujourd'hui 2000, les commandes ostentatoires des Français enrichis, les coteries de critiques et de théoriciens, tout cela aboutit à ce que dans la capitale démocratique qu'est Paris, nous ayons dans l'art, je cite, les exhibitions de foires, l'exagération des effets, l'empire mesquin des convenances, la minutie pénible de l'antiquaire, les styles maniérés et étiolés. » Fin de citation. Taine n'accepte donc pas de sauver, alors que deux figures qu'il ne nomme pas, l'un parce qu'il habitait de cœur et d'imagination dans l'Antiquité et dans le grand siècle de Raphaël, n'aura vécu à Paris que comme, je cite, « un plongeur sous sa cloche », on reconnaît Ingres. L'autre se serait coulé dans le drame douloureux de la vie, c'est ce qu'écrit Taine, faisant ressortir par ses couleurs la pitié, le désespoir, la tendresse et toujours quelque émotion déchirante ou délicieuse. Là, nous devinons Delacroix. Étrange est ce dialogue entre ce vieil Italien et le professeur des Beaux-Arts. sur les lieux mêmes où il enseigne et où l'on forme ce que l'on croit être l'élite des artistes. C'est le climat et le public qui font qu'une école, au sens d'une école nationale, existe, irrémédiablement contrainte et bornée. Ten, c'est Émile Zola qui le rapporte, avait expliqué à ses élèves de l'école qu'il n'entrait pas dans sa mission de les accompagner dans leur quête de gloire, ni même dans leur formation d'artiste. En fait, de préceptes, on n'en a trouvé que deux. Le premier qui conseille de naître avec du génie, c'est, explique Ten, l'affaire de vos parents, ce n'est pas la mienne. Le second qui conseille de travailler beaucoup afin de bien posséder votre art, c'est votre affaire. Poursuit Ten, ce n'est pas non plus la mienne. L'extrait se trouve par ailleurs cité par Émile Zola dans Monsieur Ten Artiste, publié dans Méhen. On est donc en droit de voir dans cette doctrine une double profession d'inutilité. Une école d'art fut-elle aussi prestigieuse, dont les enseignements sont assurés par de grands artistes, riches d'une grande bibliothèque et d'une collection de copies, ne saurait être une fabrique de grands artistes, encore moins le foyer d'une école nationale resplendissante. Ni la grande cour d'honneur, ni celle du mûrier, italianisante et bordée des moulages des frises du Parthénon, forment un milieu. Celui-ci opère, en revanche, dès qu'on laisse la porte de l'école derrière soi, dans les rues tristes et grises qui l'entourent, dans Paris tout entier. Quant à la mission du professeur en elle-même, elle tient à peu de choses, dire les faits et la mécanique qui les produit, rien d'autre. Je ne suis évidemment pas le premier à souligner cette position presque insulaire, décalée de Ten aux Beaux-Arts. Elle tient tout d'abord, il faut y revenir, un coup de force. La réforme de 1863, voulue par le comte de Nieuwkerke, Mérimée et Viollet-le-Duc. L'histoire est bien connue et je ne vais pas m'y attarder. Relevons tout de même qu'à la suite du décret impérial du 13 novembre, l'école est réorganisée de fond en comble. Le jugement des concours est retiré à l'Académie. L'administration de l'école, jusqu'alors l'affaire du Collège des professeurs artistes, est confiée à un directeur sous l'autorité directe du ministre de la Maison de l'Empereur. La nomination des professeurs, question sensible s'il en est, revient à la tutelle. Enfin, des chaires d'enseignement théorique sont créées. La philosophie de la réforme, on le sait, était tournée vers la valeur d'originalité, critère essentiel dans la création et l'appréciation des œuvres d'art. La tradition et sa transmission cessaient d'être le fondement de l'apprentissage et l'horizon de la production artistique. Cette réforme, on le sait, suscita immédiatement de vives protestations, particulièrement chez les vieux professeurs de l'école. Ingres publie vite une défense pleine d'acrimonie, dans laquelle il s'inquiète que l'on puisse confier des chaires libres à des personnalités extérieures. Je le cite, « Que le premier individu pût venir débiter ses idées peut-être excentriques, dangereuses pour de jeunes têtes, et troubla ainsi l'ordre et l'harmonie des études, ne peut être qu'inquiétant. » Quant aux élèves, ils firent barrage eux aussi, assimilant l'esthétique à un dogme ou une religion néfaste par principe. À l'origine de la réforme, Viollet-le-Duc occupera ainsi le premier, la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art. On sait ce qu'il advint. Dès sa première leçon, le 29 janvier 1864, qui fut prononcée dans l'amphithéâtre d'honneur, cet amphithéâtre avec la fameuse peinture de La Roche, dès donc la première leçon, Viollet-le-Duc arriva accompagné de Nieuwkerke, Mérimée et Théophile Gautier pour y donner sa première leçon. Maxime Ducamp, qui était dans l'Assemblée, raconte, et je ne résiste pas au fait de vous lire les quelques phrases de Ducamp sur le charivari, qui s'ensuivit les premiers mots d'Hippolyte Taine dans sa première leçon. Je cite donc Ducamp. À peine Viollet-le-Duc fut-il assis dans sa chaire et eut-il ouvert la bouche pour dire « messieurs », ce fut le seul mot qu'il put prononcer, que le tumulte commença. L'exclamation fut énorme, composée de toutes sortes de vociférations, chants de coqs, barrissements d'éléphants, rugissements de lions, gloussements de poules, braiements d'ânes, hennissements de cheval, miaulements de chats, roquements de tigres, glapissements de renards, jappements de chiens. Tous ces cris se mêlèrent dans une tempête au milieu de laquelle se pressaient les injures. C'est dans les souvenirs d'un demi-siècle de Ducamp. Viollet-le-Duc ne put tenir que cette cour, décidant de démissionner dès le 18 mars. En dépit de quelques lettres de soutien de quelques élèves et surtout de parents d'élèves, il renonce. Il écrit d'ailleurs à cette occasion « Ce n'est pas à 50 ans passés qu'on se résigne à servir de plastron » et à prêcher des gamins mal élevés. Il va cependant publier la même année 1864 ses leçons dans la revue des cours littéraires. À les lire, on comprend dès le commencement de la première leçon quelle était l'ambition du cours qui s'adressait aux élèves de toutes les sections, traité des époques où les trois arts majeurs, l'architecture, la peinture, la sculpture, marchaient ensemble, se nourrissaient les unes les autres. En cela, le cours de Viollet-le-Duc, en en appelant au Paragone et à l'Union des Arts, s'adressait bien aux artistes, fût-il éloigné de la vie courante des ateliers ou des causeries bohèmes. Peut-on en dire autant des cours de Taine ? S'il ne fut pas chahuté, ses cours furent désertés par les artistes. Ferenc Gewart ironise, je cite, « Taine succéda à l'auteur du dictionnaire de l'architecture, ses leçons, on le sait, eurent un retentissement considérable. Tout le monde y assistait, sauf les élèves. » Dans un rapport du Conseil supérieur de l'enseignement, dans sa séance du 16 mai 1893, on apprend encore que, je cite, « les jeunes gens ne le suivent pas en grand nombre ». Charles Garnier de Tranché, « le cours n'est pas indispensable, l'indifférence des élèves le prouve ». Hippolyte Taine, d'une certaine manière, eut plus de chance que son prédécesseur dont les cours furent en définitive trop fréquentés. Taine fut isolé dans l'école, boudé ou méprisé par les artistes, les jeunes comme les collègues peintres, sculpteurs ou architectes. Il eut cependant grand succès, car sa parole portait au-delà de l'école. Son public était Paris, le monde des savants et des curieux avides de nouveautés littéraires, et non la rue Bonaparte. Et cette parole devait se transformer en œuvre. La publication des cours sous la forme d'une philosophie de l'art, réimprimée et rééditée, en est la concrétisation. Il était arrivé à l'école après une carrière chaotique, premier reçu à l'école normale supérieure. Il avait été recalé à l'agrégation. Il s'était très tôt présenté pour y échouer à diverses chaires d'enseignement, Saint-Cyr, Polytechnique, puis une première fois les Beaux-Arts. L'appui de la princesse Mathilde lui avait permis d'obtenir un poste modeste d'examinateur au jury de Saint-Cyr. Le passage éclair de Viollet-le-Duc aux Beaux-Arts lui permit d'accéder à une chaire à la fois difficile mais très visible, lui permettant tout au moins de relancer une carrière de professeur longtemps entravée. Cette chaire d'esthétique et d'histoire de l'art venait, dans sa définition, remplir un manque. La France était dans ces deux domaines en retard par rapport à l'Allemagne. La greffe au sein d'une école d'artistes servait également la science française. Elle va former, on va le voir, un véritable modèle ou, à l'inverse, un repoussoir pour les autres chaires parisiennes. Pourtant, Taine ne fut pas le seul théoricien à tenter de s'imposer dans l'école, mais il fut le seul à conquérir un véritable auditoire mondain et à laisser un souvenir durable. Avant lui, l'helléniste Léon Heuzet avait été nommé en 1862, juste avant la réforme, reprenant non pas une chaire, mais une charge de cours, jusqu'alors assurée par le bibliothécaire Adrien Jarry de Mancy. Heuzet enseigna aux Beaux-Arts jusqu'en 1907, soit plus de 40 ans. Dans le cadre de sa chaire d'histoire de l'Antiquité, Heuzet, qui resta conservateur au musée du Louvre, se concentra sur le costume antique. Il fit sensation en achevant ses leçons de l'année par des séances de drapé sur des modèles vivants. On en voit ici une photographie qui est évidemment assez impressionnante et qui montre là aussi combien Heuzet avait réussi à s'acclimater dans cette école en faisant une sorte de performance, on peut dire, avant l'heure, qui subjuguait les foules. Edmond Potier, qui est son suppléant, décrit du reste le succès remporté par ses véritables actions. Je cite, « Chaque été, le maître résumait ses leçons de l'année en faisant paraître sur l'estrade et en drapant lui-même de ses doigts habiles et légers soit un Égyptien, un Chaldéen, un Assyrien, soit un soldat grec ou une Tanagréenne, un légionnaire ou un sénateur romain. L'hémicycle des Beaux-Arts était alors trop petit pour contenir la foule qui s'y pressait, mêlée aux élèves de l'école. » Autre recrue, cette fois en 1864, grâce à l'ouverture faite par la réforme de 1863. David Suter, autorisé à prononcer, alors c'est un nom, je dois dire, avant de préparer, je ne connaissais pas David Suter, je ne suis pas sûr qu'il soit très connu ni lu. J'ai beau faire de l'historiographie, il y a des personnages qui m'ont échappé, Suter en est un. Il fut autorisé pourtant à prononcer un cours d'esthétique générale et appliquée. Peintre, graveur, musicien et écrivain, il avait très tôt fait valoir auprès de Théophile Gautier qu'il était le plus à même d'enseigner la perspective dans l'école, ainsi que les lois de l'harmonie esthétique, des lignes, de la lumière et des couleurs. Dans une lettre qu'il y a l'adresse donc à Gautier, le 4 avril 1864, il fait de la réclame pour le traité de perspective qu'il vient de publier. Je cite « Cet ouvrage est le plus complet, le mieux ordonné et le seul avec lequel on puisse apprendre la perspective sans le secours d'un maître. Cette méthode est si simple, ajoute le candidat spontané, que je puis enseigner la perspective en une heure aux plus obtus des élèves de l'école, et je serais même très désireux d'être appelé à en donner la preuve en présence de la commission dont vous faites partie. Fin de citation. L'ouverture de chaires accordée par l'administration des Beaux-Arts sans l'assentiment des professeurs de l'école avait créé, on le comprend bien, une sorte d'effet d'aubaine. Sutter parvient à se faire nommer, prononce ses premiers cours d'esthétique générale appliquée dès 1864. À Ventaine, il y eut donc un autre professeur d'esthétique, mais une esthétique d'un tout autre genre, dont le souvenir s'est donc largement évanoui. Sutter occupait une chaire dite libre, autre professeur dite libre qui va faire, on peut le dire, long feu. Autre professeur qui va trouver dans l'école fraîchement rénovée un point de chute, un professeur dont la postérité est, à l'inverse, tout à fait considérable, Louis Pasteur. Il avait été chassé de l'école normale supérieure et, attendant la chaire de la Sorbonne, où il allait se faire élire en 1867, il parvient à se faire nommer dans la section d'architecture de l'école des Beaux-Arts un poste de professeur de géologie, de physique et de chimie. Là encore, comme Taine, il manque de public et il renoncera rapidement à poursuivre ses cours, faute de moyens matériels et donc surtout d'auditoire. D'une certaine façon, la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art confiée à Taine, presque de manière hasardeuse, pour caser l'éternel recalé, va se transformer en modèle. De greffe mal acceptée au sein d'une école d'artistes turbulents et souvent rétif aux abstractions, elle va prescrire ailleurs la définition des autres chaires. Celle de Charles Blanc, au Collège de France tout particulièrement. On le comprend en lisant la position de Ferdinand Brunetière en 1882 au sujet de la chaire d'esthétique ou d'esthétique et rien d'autre au Collège de France. Je dois la connaissance de ce texte, du reste, à Claire Barbillon. Publié dans la Revue des Deux Mondes, cet article livre la doctrine très prescriptive, il faut bien le dire, de Brunetière quant à l'esthétique et l'histoire de l'art, en France. Dans l'économie générale des chaires, la matière esthétique doit revenir au Collège de France. Charles Blanc a plus que Taine ouvert la voie. Cela ne tient pas à la supériorité de l'un sur l'autre, mais à la nature des institutions et des enseignements qui y sont dispensés. Je vais vous lire un long passage chez Brunetière qui me semble tout à fait passionnant pour comprendre comment Brunetière essaye de définir le partage des chaires et le rôle de celles au Collège de France. On dira peut-être qu'il y avait une chaire d'esthétique à l'École des Beaux-Arts. C'est vrai. Elle a même été occupée, elle l'est encore, comme on ne peut guère se flatter que la chaire du Collège de France elle-même le soit souvent. Les doctrines de M. Taine, qu'on les partage ou non, et pour notre part nous ne les partageons qu'à moitié, mais ce n'est pas là le point, laisseront une trace plus profonde peut-être qu'aucune autre doctrine esthétique depuis Schelling et depuis Hegel dans l'histoire de la pensée contemporaine. Seulement, l'école des Beaux-Arts, et en dépit de la liberté du régime intérieur, est une école spéciale, une école fermée, j'oserais presque dire, au risque d'offenser plus d'un amour propre, une école secondaire où l'on forme des élèves, quoi qu'il en ait, pour une espèce de service public. La nature des cours y est déterminée par les exigences d'un programme qui, pour n'être pas écrit sur le papier, n'en est pourtant pas beaucoup moins rigoureusement défini que dans les autres écoles. Un professeur à l'école des Beaux-Arts est plus libre assurément de la distribution des matières de son cours qu'aucun professeur à l'école polytechnique, par exemple, ou à l'école normale. Il n'en est évidemment pas le seul maître, et il y a des considérations qui règlent son caprice, des convenances qui restreignent sa liberté, des obligations, enfin, qui bornent expressément son choix à quelques-unes des provinces de l'histoire de l'art. Concevez-vous en effet qu'un professeur à l'École des Beaux-Arts a à l'apprendre une année pour sujet de son cours l'histoire du mobilier français ou de la porcelaine de Chine? Ou bien encore, admettez-vous qu'il se proposa de faire un examen critique des travaux d'érudition dont les peintres vénitiens, par exemple, ou les graveurs français auraient été l'objet depuis 15 ou 20 ans? Ce qu'il fallait cependant, et c'est ce qui manquait, c'était bien une telle chaire vraiment publique autour de laquelle tout le monde eut accès. Une chaire dont la désignation large permit au titulaire, et selon qu'il lui conviendrait, sous sa seule responsabilité, de renouveler chaque année la matière de son enseignement. Une chaire, enfin, dont l'occupant n'eut à s'inquiéter que des besoins de la science, et encore de la science telle qu'il la comprendrait, je veux dire de la science ouverte, de la science hétérodoxe, maître en deux mots, et sans avoir à craindre qu'on l'accusât de routine ou de témérité, maître d'attaquer la tradition, s'il lui plaisait, ou au contraire de la défendre contre les assauts de la nouveauté. Soyez bien sûr d'ailleurs que cette liberté de tout oser ne deviendrait dangereuse que si l'on asseyait dans la chaire un homme incompétent. Cette chaire, poursuit et conclut Brunetière, pouvait-elle être mieux placée qu'au Collège de France ? Il est assez étrange, pourtant, que Brunetière ait pu voir dans l'école des Beaux-Arts, et singulièrement celle où Taine s'était logé, une école contrainte par des exercices d'application. Taine, nous l'avons vu, avait su créer son insularité et même la théoriser. Son successeur, Louis de Fourcault, ne fut pas plus contraint par les ateliers de pratique que par un programme implicite. Taine, c'est peu de le dire, ne se sentait nullement obligé de donner aux élèves des recettes pour emporter le prix de Rome et faire carrière. S'il ne traite pas de la Chine, cela ne tient pas à ce qu'il se conforme à un quelconque canon, qu'aux limites de son savoir et peut-être à son universalisme façon Troisième République, qui est en réalité très européen. Une sorte de partage va alors s'établir, où en réalité l'histoire de l'art va finir par dissoudre cette esthétique qui obsédait les esprits dans les années 1860. Mais le terme esthétique va subsister. D'un côté, le Collège de France va revendiquer le terme esthétique dans une assemblée des professeurs réunie en 1882. Il s'agissait de tenir une position forte face à l'université allemande. C'est ce que l'on comprend en lisant le compte-rendu de cette séance dont je dois la connaissance à Jessica Desclos. De l'autre côté, l'École des Beaux-Arts va restreindre le champ de sa chaire en la centrant sur l'histoire de l'art en 1893. Elle va d'une certaine façon donner raison a posteriori à Brunetière. Le Conseil supérieur des Beaux-Arts décide en effet en 1893 d'accorder à l'histoire de l'art la première place en reléguant l'esthétique au second rôle. Membre de son conseil qui décide de cette mutation, Louis de Fourcault, alors je vous montre ici Louis de Fourcault, un critique et écrivain, va être le candidat qui va emporter le concours. Il assure le cours jusqu'en 1912-1913, à la veille de la Première Guerre mondiale. À distance, le Collège de France avait entendu conserver la définition très large, l'histoire de l'art englobée par l'esthétique. Mais ni Guillaume ni La Fenestre ne donneront au terme un contenu ferme et véritablement expérimental. L'esthétique sera la caution allemande, quasiment scientiste, d'une histoire de l'art de grand gabarit, de plus en plus synthétique, non plus adressée à un cénacle érudit, mais à un public mondain qui venait découvrir de saison en saison les différentes régions d'une histoire de l'art universelle, c'est-à-dire à ce moment, encore une fois, bien européenne. Brunetière avait d'une certaine façon donné le résultat dans son article de 1882 des compétitions à venir. Trois candidats s'étaient présentés à la succession de Charles Blanc. Georges Lafenestre, Olivier Raillé, pardon, et Eugène Muntz. Pour Brunetière, ce dernier avait pour handicap son érudition. Trop grand était le risque qu'il ne fît, s'il était élu de son enseignement, un cours d'érudition pure à l'usage de quelques initiés. Déjà suppléant en épigraphie grecque, Raillé n'avait pas la qualification pour parler de Velázquez ou de Rembrandt. Lafenestre était donc, on le comprend bien, le seul pour Brunetière à pouvoir embrasser tout le champ de l'histoire de l'art avec l'esthétique qui était censée l'encadrer. Muntz, certes, avait davantage publié que Lafenestre, mais ce dernier avait pour lui d'avoir déjà parlé au grand public, ce qui était la vocation du Collège de France. Enseignement général ou enseignement spécial, le premier devait l'emporter, selon Brunetière. De leur côté, les professeurs du Collège de France avaient tranché dans leur assemblée générale du 5 mars 1882 en perpétuant la dénomination esthétique pour la chaire. Mais c'est un autre professeur des Beaux-Arts, le sculpteur Guillaume, qui l'emporte à ce moment, Lafenestre devenant son suppléant. Il est frappant de voir à distance que Muntz fut, pendant les dernières années de sa vie, le grand perdant de toutes ces compétitions. Il échoue au Collège de France en 1882, comme nous l'avons vu. Et en 1893, à la mort de Taine, il ne parvient pas même à lui succéder aux Beaux-Arts. C'est Fourcault, on l'a vu, qui l'emporte dans une élection qui se joue à une faible majorité, 10 voix pour Fourcault, 8 pour Eugène Muntz. Pour parler comme les sportifs, après avoir perdu à l'extérieur, il perd à domicile. En même temps, il faut bien le dire, il perd également idéologiquement. Il perd idéologiquement, et là, il perd contre Courageot, qui n'aura de cesse, dans ses leçons à l'école du Louvre, de déplacer le centre de gravité de l'art français vers l'Europe du Nord, là où Muntz s'intéressait aux relations entre l'Italie et la France, mais en montrant combien la France avait puisé au grand foyer italien. Il perd donc idéologiquement contre Courageot, qui s'impose très rapidement comme un compétiteur tout à fait redoutable. Et à la fin de sa vie, Lafenestre et Bouchot enterreront, on peut le dire, Muntz dans la grande exposition des primitifs français de 1904. Je ne m'étendrai pas là-dessus, j'ai déjà beaucoup écrit sur cette exposition il y a quelques années, mais ce qui est frappant de voir sous la plume de Bouchot, qui va être nommé à l'Académie, et la fenêtre qui accède finalement au Collège de France, ils font de Muntz une cible presque systématique en parlant du clan des primaticiens. Le clan des primaticiens, c'est le clan dont Muntz est effectivement le représentant le plus éminent. Et toute la critique, effectivement, nationaliste, qui commence à grandir et prendre un pouvoir tout à fait considérable à partir des années 1880, donc chez Courageau, ensuite chez Bouchot et La Fenêtre, est en réalité une grande bataille organisée contre les thèses et les écrits d'Eugène Muntz. Du point de vue de la discipline, enfin, tous ces combats ont quelque chose de remarquable. L'introuvable formule française de l'esthétique est effectivement ce qui est en jeu dans cette histoire. On avait cherché à rattraper la vieille esthétique hégélienne que Cousin avait cherché à acclimater dans la création de la chaire à l'École des Beaux-Arts et ensuite au Collège de France. Les milieux avaient été explorés par Taine. La scientificité des procédures également, et notamment par quelqu'un comme La Fenêtre. Or, dans ces deux domaines, l'Allemagne avait toujours au moins un train d'avance. La Kulturgeschichte de Burckhardt était infiniment plus ouverte que la mécanique de Taine à laquelle on voulait à ce moment la comparer. Or, s'il faut chercher un vis-à-vis à Burckhardt en France, il me semble qu'il est davantage chez Muntz que chez Taine. Quant à la science, les Allemands l'investissent à ce moment sous la bannière de la Kunstwissenschaft. Mais là encore, la comparaison aujourd'hui peut être cruelle. Les prétentions de La Fenêtre ne tiennent pas face à un Springer ou même face à un Volkmann. Aujourd'hui, on peut le dire, dans tout ce milieu de grands professeurs qui se disputent les chaires entre 1860 et 1905, c'est Muntz qui peut paraître, je crois, aujourd'hui la grande figure. Cela tient à l'ampleur de son œuvre et à la manière très souple et vivante dont il accueille l'idée de milieu. Cela tient à ses sociabilités qui sont véritablement impressionnantes. Il faut mentionner ici la correspondance qui a été publiée il y a quelques années par Michela Pacini. Muntz, on le voit à lire les lettres qu'il adresse à ses amis allemands, est en réalité le meilleur représentant de la discipline en France, en tout cas auprès des Allemands. Aujourd'hui aussi, et là c'est grâce aux travaux de quelqu'un comme William Heckscher, on mesure mieux le rôle qu'il a joué dans la naissance de l'iconologie, avec certes Salomon Reinach. Le terme en tout cas apparaît très tôt chez Eugène Muntz, le terme d'iconologie, et ce n'est pas simplement une question terminologique, c'est la méthode elle-même qui est en germe chez Eugène Muntz très tôt, autour de 1905. Ce sera évidemment Warburg et ensuite Panofsky qui donneront un contenu méthodologique infiniment précis et ambitieux, mais la méthode, on le sait, était en germe chez quelqu'un comme Eugène Muntz. Enfin, aujourd'hui, l'inventivité conceptuelle d'Eugène Muntz peut nous apparaître très évidente et elle n'avait pas échappé à Abby Warburg, qui avait été très tôt, très marqué par les travaux de Muntz et notamment la manière dont il se saisissait de la question du pathétique ou des figures exacerbées comme la méduse. Je voudrais, pour finir, conclure très rapidement sous la forme d'une ouverture. La chaire de Taine à l'École des Beaux-Arts et les leçons qui a pu y donner vont avoir, dans la première moitié du XXe siècle, une immense postérité sur laquelle il faudrait peut-être un jour essayer de revenir d'une manière précise. Il y a tout d'abord sa notoriété hors de France. Elle est considérable. Je discutais hier avec mon ami Fabio d'Almeda, qui est post-doctorant à l'École du Louvre, qui me disait que Taine a été très vite, très lu en Amérique du Sud. C'est un domaine qu'il connaît bien. Il travaille sur les transferts entre l'historiographie française et les méthodes pratiquées à l'École des Beaux-Arts à la fin du XIXe siècle en Amérique latine, au Brésil, au Mexique ou en Argentine. En tout cas, Taine est très tôt lu dans ces pays, et c'est quelque chose qu'il faudrait parvenir à mieux prendre en compte. La postérité aussi de Taine, et ce sera ma fin, la postérité de Taine est également intéressante parce qu'il sera, pour beaucoup d'auteurs, un véritable repoussoir. Et ici, je pense notamment à une figure illustre de cette institution qui est tout simplement Henri Faucillon. Henri Faucillon, j'ai commencé un tout petit peu à démêler cette question. Taine, d'une certaine manière, suit Faucillon dans toute sa carrière. Déjà, quand il est élève à l'École normale supérieure, on sait par la liste des livres qu'il emprunte qu'il lit Le voyage en Italie de Taine. Bon, là, nous sommes autour de 1900. Il y a ensuite le premier écrit de Faucillon, qui est une recension, non pas d'un livre d'histoire de l'art, mais d'un ouvrage du philosophe Jules de Gautier de Laguioni, qui est un intellectuel marginal, qui est rangé aujourd'hui dans les penseurs socialistes et classé aussi, par ailleurs, dans les antimodernes par Antoine Compagnon. Or, Faucillon s'intéresse à un livre qui s'appelle « La fiction universelle », paru en 1903, dans laquelle Gautier s'intéresse à la psychologie des peuples en montrant comment les destins individuels ou les milieux sociaux sont façonnés. Faucillon y réagit en opposant à ces milieux dont parle Gautier de Laguioni, en parlant des milieux d'esprit, c'est-à-dire des milieux qui, pour Faucillon, sont des milieux conscients. Autre allusion donc à Taine. Par la suite, on trouve, là aussi je donne un exemple, en 1907, une lettre qu'il adresse à ses parents depuis Rome, dans laquelle il écrit, je cite, « Je ne puis guère porter au nu un homme dont je m'attache à démolir le système critique et dont les idées historiques et politiques m'ont toujours paru les plus malsaines de toutes. » Il y a encore les trois essais romains de 1910, dans laquelle Taine également est cité. Il y a un personnage qu'invente Faucillon qui s'appelle Monsieur de Sainte-Colombe, qui, écrit Faucillon, ne peut souffrir Monsieur Taine. Bon. Là encore, les choses sont claires, mais tout cela ne constitue pas simplement une sorte de repoussoir, mais quelque chose qui va permettre à Faucillon de façonner quelque chose qui est très important dans son histoire de l'art et qui apparaît dans les années 1920 dans une première étude qui s'appelle « L'esthétique des visionnaires » dans laquelle Faucillon commence à essayer d'imaginer quelque chose qui serait un milieu, non pas un milieu qui serait synchronique, mais au contraire un milieu allochronique d'artistes qui ont une sorte de parenté cachée entre eux. Bon, ça, c'est la notion de visionnaire telle que Faucillon la décline et y reprend en 1938-39, dans le premier cours qu'il donne au Collège de France, où il vient d'être élu, cette catégorie qu'il tente, là encore, de reformuler en lui donnant davantage de contenu. Il est clair qu'en façonnant en définitive cette catégorie, Faucillon voulait accorder un privilège que Taine avait refusé aux artistes, une certaine liberté, certes contrainte, mais toujours conquise dans les œuvres singulières. Je vous remercie pour votre attention.
Un très grand merci François-René Martin pour ce fascinant voyage dans, tu appelles ça les combats, on peut appeler ça aussi des négociations permanentes, des frictions, et dans ces négociations on comprend où s'ouvrent les portes, où elles se ferment. Ce qui m'a paru particulièrement intéressant, c'est d'entendre avec toi que la chaire d'histoire de l'art ici s'inspire de la dénomination de celle de l'École des Beaux-Arts, tandis que l'École des Beaux-Arts se dénigre elle-même, semble-t-il, en permanence, mais on comprend qu'en réalité c'est peut-être elle qui internationalement joue un rôle a posteriori aussi important ou plus important que celle de l'École des Beaux-Arts. Donc, en fait, nous sommes dans une géographie, comme le proposait Jessica Desclos, mais aussi dans des sables mouvants et des choses qui bougent beaucoup, qui sont très intéressantes. Et la description, évidemment, de cette espèce d'arche de Noé, de cacophonie, au moment où, Viollet-le-Duc tente de prendre la parole, elle m'était inconnue. Et je pense qu'on comprend bien que c'est dans cette cacophonie, en quelque sorte, métaphoriquement, que se mettent en place les lignes de force. Un grand merci donc. J'ai retenu que Ferdinand Brunetière pensait ou associait la chaire d'esthétique au Collège de France à quelque chose qu'il nomme la liberté de tout oser. J'aime bien cette devise et j'ouvre donc la discussion à la liberté de tout oser ou bien jusqu'où aller. au Collège de France. Si des questions sont formées, vous êtes invité à les poser. Nous avons précisément 10 minutes pour le faire et nous avons un expert à notre disposition. Donc allez-y, osez. Osez poser vos questions. Si vous en avez. Jessica Tesclo. Il y en a un ici, pardon.
Oui, un immense merci à François-René Martin. C'était vraiment passionnant et je le dis avec, en grande, avec toute sincérité. Moi, j'ai adoré tous les textes sur l'ambiance de l'École des Beaux-Arts. Et c'est vrai que quand on est jeune enseignant, on se dit toujours qu'on ne maîtrise pas toujours bien sa classe, qu'on a un peu peur dès que quelqu'un bavarde un petit peu et on se rend compte que finalement, c'est très paisible. Nos cours sont... Ça se passe très, très, très bien. J'ai noté plein de choses qui me semblent intéressantes. Cette notion déjà entre l'esthétique et la pratique, l'esthétique et l'histoire de l'art. Finalement, l'histoire de l'art, Taine en fait moins qu'une théorie de l'art. Et on a l'impression que c'est ce qui a vraiment plu à Brunetière. Et il le compare finalement qu'à l'Allemagne avec des exemples Schelling. Donc sous ce double intitulé que récupère le Collège de France, finalement on voit que au début c'est vraiment que l'esthétique qui passe et l'histoire de l'art est là, mais en pratique on ne sait pas trop si elle est vraiment là dans les cours à ce moment-là, quoi, je ne savais pas bien. Et je pense qu'il y aurait aussi des choses à essayer de comprendre autour des relations entre ces personnes. C'est vrai que Brunetière et La Fenêtre écrivent tous les deux dans la revue des Deux Mondes et il doit y avoir un lien pour que Brunetière défende comme ça La Fenêtre, un lien lié à la même revue où il publie peut-être. Sinon, pour prolonger par rapport à ce que j'ai parfois lu dans les archives du Collège de France et qui pourrait du coup lancer une discussion, c'est qu'on a pas mal de candidats en seconde ligne aux élections suivantes du Collège de France qui seront élus aux Beaux-Arts. Donc il y a Potier, et vous en avez parlé, donc c'est vrai qu'il commence suppléant à l'École des Beaux-Arts, candidate en 1905 ici, il n'est pas pris, et puis finalement il ira à l'École des Beaux-Arts et il est conservateur du Louvre, donc peut-être qu'on pourrait réfléchir à partir de cette figure. Il n'est plus archéologue, mais il est quand même candidat à la chaire d'esthétique et d'histoire de l'art. Victor Klaas, et je suis désolée de révéler quelque chose qu'il a trouvé avec acharnement, et il l'a trouvé parce que je n'avais pas reconstitué tous les perdants. Et un des perdants face à André Michel en 1919, c'est Urtic, qui sera élu ensuite à l'École des Beaux-Arts. Donc c'est intéressant, la seconde ligne en 1919 va à l'École des Beaux-Arts. Donc, autre figure sur laquelle on pourrait réfléchir. Et peut-être aussi, dans un des discussions en 1905, pour savoir si la chaire allait être maintenue à l'École des Beaux-Arts, au Collège de France, il y a un professeur qui dit « Non, cette chaire n'a pas lieu d'être au Collège de France, parce qu'il y en a déjà une à l'École des Beaux-Arts. » Et je cite, c'est M. Foucard, dans l'Assemblée des professeurs de 1905, qui déclare que cette chaire d'esthétique et d'histoire de l'art n'est pas à sa place au Collège de France et qu'elle serait mieux placée à l'École des Beaux-Arts. Monsieur Lefranc fait remarquer que l'École des Beaux-Arts a déjà une chaire. Il est procédé au vote et la majorité l'emporte pour le maintien de la chaire. Donc on voit aussi ce dialogue qui se fait au sein du Collège de France, une résistance face à l'École des Beaux-Arts. Donc je ne sais pas si ça génère une réflexion, ces deux noms et ce modèle, ce débat qui a lieu ici même.
Merci beaucoup, Jessica, pour tes remarques. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une chose que je n'ai pas pu faire, mais qu'il faudrait évidemment essayer de construire, c'est voir le vis-à-vis, effectivement, entre le collège et l'École des Beaux-Arts sur une période beaucoup plus longue que je ne l'ai fait. Bon, il y a évidemment la première moitié du XXe siècle, mais il y a aussi la deuxième moitié du XXe siècle, dont je n'ai pas parlé, qui est assez intéressante. C'est-à-dire que, d'une manière presque fantasmatique, l'École des Beaux-Arts va se vivre comme une espèce de Collège de France bis, mais pour des gens qui seraient un peu plus libres, quoi, en gros. Là aussi, l'argument de la liberté va être utilisé par les deux institutions, mais dans des sens évidemment totalement différents. C'est une chose qui me frappe. Les gens qui ont occupé la chaire d'histoire générale de l'art aux Beaux-Arts, après la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des gens comme Gaëtan Picon. C'est des gens qui avaient une très grande surface académique, on peut le dire, qui étaient en même temps, en quelque sorte, des francs-tireurs, en même temps des gens très, très établis institutionnellement, cumulaient les deux propriétés, quelqu'un comme Picon. Je pense aussi à des gens comme Marcelin Plénet. L'exemple de Marcelin Plénet est très intéressant aux Beaux-Arts. Quand il est nommé à la chaire, occupe une chaire d'histoire de l'art, il vient du milieu tel quel, hein, avant-gardiste. Ce qui est fascinant, c'est qu'il décide d'organiser une leçon inaugurale. Quand il est nommé, j'avais donné un mémoire à l'école du Louvre sur l'enseignement de Marcelin Plénet aux Beaux-Arts. C'était très très drôle de voir, enfin drôle si on peut dire, c'était assez étonnant et étrange de voir qu'il organise une grande leçon inaugurale. Il invite tous ses amis des deux magots et en même temps tout Paris. Il fait une leçon inaugurale sur Homère. Il fait cours pendant un an sur Homère. Les étudiants évidemment ne viennent pas, comme Pourtaine, mais c'est pas grave puisqu'il a une chaire qui, dans son esprit, et une sorte d'équivalent très chic de la chaire au Collège de France. Bon. Là aussi, c'est très intéressant de voir combien ces vis-à-vis ont fonctionné longtemps. Je ne suis pas sûr qu'ils fonctionnent aujourd'hui comme ils l'ont fait dans le temps, et c'est peut-être très bien d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est resté quand même quelque chose de très présent.
Oui, Céline ?
Non.
Merci. Juste un détail. Je remercie évidemment François René de sa très intéressante, passionnante communication. Dès qu'il prend la parole, c'est toujours passionnant. C'est pas très nouveau pour moi. Peut-être que l'on n'introduise pas une erreur sur le candidat en seconde ligne. Le candidat en seconde ligne au Collège de France ne peut pas être élu. Il est une sorte de suicidaire. Volontairement, il vient là pour soutenir en quelque sorte un rite juridique. Parce qu'il faut bien qu'il y ait au moins deux candidats. Sinon, on ne voit pas comment on choisirait. Sinon, c'est un candidat déjà proclamé, ce qui est d'ailleurs le cas au Collège de France. Quand on fait, lorsqu'on vote, on sait très bien pour qui on va voter. Mais il faut qu'il y ait un candidat en seconde ligne. Donc tous ces candidats en seconde ligne qui finalement ont été recalés, comme vous disiez, et qui sont allés frapper à la porte de l'école des Beaux-Arts, c'était des gens qui savaient très bien qu'ils allaient être recalés. Et le poste aux Beaux-Arts pouvait être un poste provisoire avant d'accéder en effet au Collège de France. Et puis un autre point, mais ça c'est juste pour une indication, je pense qu'il faudrait essayer de comprendre exactement ce qu'était la notion d'esthétique en France par rapport à l'esthétique allemande qui donc remonte au milieu du XVIIIe siècle. C'est pas du tout la même. Vous avez parlé en passant de Victor Cousin, de Hegel, comment effectivement l'esthétique de Hegel a joué un grand rôle, mais ce sont des choses qui peu à peu sont presque oubliées. Et on parle d'esthétique plus à la manière dont Taine en parle, c'est-à-dire en élaborant une sorte de vaste philosophie, que ce que les Allemands font à ce moment-là, qui n'est pas de l'esthétique, qui est plutôt de la Kunstwissenschaft.
Absolument.
Voilà. Donc, je crois que là, il y a une grosse nuance à introduire, qui nous fait comprendre aussi pourquoi ce terme d'esthétique est resté tellement longtemps d'actualité au Collège de France. Même Gabriel Millet est un éminent byzantinologue qui n'a enseigné pendant toute sa carrière ici que l'art de Byzance, et qui avait une chaire d'esthétique et d'histoire de l'art, qui n'avait plus de sens, qui était une pure vue de l'esprit. Voilà, donc ça c'est pour introduire un peu toutes ces confusions sur l'objet et ses notions.
Claire Barbillon.
Merci. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites sans déflorer ce qui va être l'objet de nos réflexions cet après-midi pour dire que, effectivement, je suis convaincue que Charles Blanc définit l'esthétique encore tout à fait différemment et s'inscrit durablement dans cette chaire pendant, à mon avis, au moins une vingtaine d'années, une esthétique grammairienne, qui est en fait l'ébauche d'un formalisme, hypothèse sur laquelle j'ai déjà un peu travaillé, mais qui montre bien l'écart considérable qu'il y a entre cette esthétique extrêmement formaliste et finalement la définition allemande à laquelle se réfère néanmoins, mais d'une façon très superficielle, cette esthétique à la française.